ces trois attributs de Dieu, qu'on appelle l'amour, la sainteté et la justice, sont tellement liés, sont très étroitement liés, et on ne peut pas les séparer. Il y a l'amour qui est la justice qui sont les composants de la sainteté de Dieu. Ils sont tellement liés, et je vais le dire comme ceci, ils sont tellement complices que si l'un de ces aspects manque, Dieu ne serait pas saint. S'il y a son amour sans sa justice, il ne serait pas saint, ni sa justice sans son amour, il ne serait pas saint. Mais Dieu est saint, et puisqu'il est saint, il aime toujours et il est toujours juste. J'ai choisi donc de traiter l'amour de Dieu en premier parce que pour moi c'est une base de ce que nous allons voir aujourd'hui. Parce que si on commence à parler de la sainteté et la justice de Dieu sans avoir une idée, au moins une idée de son amour, ce qu'on dit au sujet de la sainteté et de la justice peut sembler très dur. Et donc je voulais un peu malaxer le sujet pour aujourd'hui en parlant d'abord de son amour. Mais avant de parler de sa sainteté aujourd'hui, j'aimerais quand même donner un petit résumé, ou plutôt des rappels de ce que nous avons vu la semaine passée au sujet de son amour. Et lorsque je parlais de l'amour de Dieu, je préférais, et je préfère toujours dire, le décrire comme ceci, que Dieu aime. On peut dire qu'il est le Dieu d'amour, mais je préfère qu'il est le Dieu qui aime, parce que son amour est un amour actif, il n'est jamais passif. Il est toujours en train de faire quelque chose pour l'homme. Ça, c'est très important à se rappeler. Donc, tout ce qu'il fait, c'est lié à cet amour qui agit en faveur de l'homme. Son amour est le mieux décrit par le mot grec agapé, qui est un amour qui veut et qui travaille toujours pour le bien-être de l'autre, malgré ce que l'autre pense, malgré la mérite de l'autre. Cet amour patient, et je l'ai dit aussi la semaine passée, de longue haleine, est bien exprimé dans le texte, le premier texte que vous avez sur la feuille, surtout dans le verset 4, où Dieu a dit, je l'ai fait, et je veux encore porter, soutenir et libérer. Voilà l'attitude de Dieu envers ceux qu'il aime. Puisqu'il aime de cette manière, de cette profondeur, avec cette qualité d'amour, Dieu n'abandonne pas facilement ceux qu'il aime. Et même au moment de rébellion militante, et là on a exemple après exemple dans l'histoire d'Israël, Dieu aime et Dieu travaille et il fait toujours tout son possible pour ramener les rebelles à lui. Et ça a duré parfois à travers des siècles. L'agonie de Dieu pour son peuple, je le décris comme cela, et son travail et sa patience en vue de changer le mauvais comportement de son peuple afin de les préparer pour la venue de son Messie, c'est le message essentiel de tout l'Ancien Testament. Comme j'ai dit la semaine passée, l'Ancien Testament, c'est une petite partie de l'histoire humaine. Mais Dieu, dans ce qu'il a révélé dans l'Ancien Testament, nous montre combien il nous aime, parce que dans ce qu'il a révélé, il nous montre comment il travaille à travers les siècles, depuis la création du monde, pour nous amener à Christ, pour nous sauver de nous-mêmes. Donc le prophète Ézéchiel a bien préservé ce sentiment d'amour et je dirais aussi l'agonie de Dieu pour son peuple par cette citation qui est un cri d'amour. Ézéchiel 18, 31-32. Rejetez loin de vous tous les crimes qui vous ont rendu criminels. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Oracle du Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Donc en résumé, j'aimerais suggérer quatre manières par lesquelles nous pouvons savoir que Dieu nous aime. Je les ai déjà mentionnées la dernière fois, mais je les répète rapidement ici. Premièrement, nous pouvons connaître l'amour de Dieu à travers les exemples de ses actions d'amour dans l'Ancien Testament. Et là, on a regardé quelques-uns, mais il y a des centaines de façons que Dieu travaille, qui montre son amour à son peuple, à l'homme. Et ce qui est intéressant, c'est que ces exemples d'amour sont de loin plus nombreux que ces exemples de punition. Dieu punit, c'est vrai, mais il agit beaucoup plus souvent, si vous voulez, avec un amour, on peut appeler ça positif. Je dirais que la punition, c'est un amour négatif, c'est-à-dire essayer de corriger ce qui ne va pas. Mais le plus souvent, c'est le positif qui est découvert dans les écrits. Bon, deuxièmement, il y a une chose à laquelle nous ne pensons pas souvent qui prouve son amour. En effet, beaucoup le rejettent comme preuve. Mais deuxièmement, Dieu prouve son amour par le fait qu'il nous a créés. Et en nous créant, il nous a fait à son image. Ça, c'est très important. En effet, il a eu soin, comme j'ai essayé de démontrer la dernière fois, de tout faire en bon ordre et au détail, afin que l'homme soit sa créature la plus bénie de toutes les créatures qu'il a créées. Nous sommes son chef-d'œuvre, que nous le reconnaissions ou non. Et si on pouvait nous rappeler, si nous pouvions nous rappeler que nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu, peut-être ça nous donnera un petit pouce pour faire mieux, pour l'honorer, pour le glorifier dans notre façon de vivre. Mais cela est une preuve de son amour, que nous sommes son chef-d'œuvre. Troisièmement, nous savons que Dieu nous aime, car comme nous avons vu dans trois passages différents la dernière fois, Dieu ne nous laisse pas tout seul pour nous extraire nous-mêmes des complications et des malédictions de nos péchés. Nous sommes tombés dans le péché et on n'arrive pas à nous en sortir tout seul. Et donc, il va faire quelque chose, il reste là, il est toujours là, il tient la main, il étend la main, pour nous extraire de cela. Et si on saisit sa main, on serait sauvé. Et il est toujours là. Malheureusement, on ne saisit pas toujours la main qui nous est tendue. Mais il reste là pour nous aider. Même avant que nous ayons péché, Dieu avait déjà fait des choses pour nous en sortir que nous n'aurions jamais pu faire par nous-mêmes. Avant la création du monde, il a tout prévu et il a tout mis en œuvre pour nous sauver par son dessein bienveillant. Cette expression, son dessein bienveillant, est répétée souvent dans les textes. Dessein bienveillant, c'est-à-dire quelque chose qui regarde en avant. Il veut faire du bien en avant. Il prévoit ce qu'il veut faire pour nous. Donc, le moyen qu'il a choisi pour nous faire ce bien était l'envoi de son Messie afin de mourir à notre place. Et à travers les âges, il œuvrait à travers un peuple, les Hébreux, les Juifs, pour que son dessein s'accomplisse. Et parfois, même souvent, je dirais très souvent, comme nous allons voir, il a dû corriger son peuple afin de les maintenir dans cette fidélité à Dieu, dans leur fidélité, ou afin de les rappeler à la fidélité, et aussi en même temps afin de les préparer pour la venue de ce Messie qu'il voulait envoyer. Nous verrons cela plutôt la prochaine fois, quand on voit la justice de Dieu, comment il a dû parfois agir pour punir, pour corriger son peuple. Et Dieu travaille toujours. Il est toujours au travail. Et du fait que Dieu travaille, la philosophie du déisme, je ne sais pas si vous avez étudié cela, vous savez ce que c'est, cette philosophie ne tient pas debout. C'est une philosophie qui dit que Dieu a tout mis, qu'il a tout créé pour abandonner sa création à elle-même. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça que nous trouvons dans la Bible. Dieu, c'est vrai qu'il a créé le monde, mais il est aussi, il reste là, il soutient sa création. Il est là pour nous aider à tout moment si nous voulons saisir la main qu'il nous tend. Donc Dieu n'abandonne jamais sa création à elle-même. Et comme a dit l'apôtre Paul, même avant la création, Dieu a tout prévu afin de nous sauver. Comme avec Israël, que Néhémie a dit, avait été présomptueux et avait raidi son nuque et n'avait pas écouté et pratiqué les commandements de Dieu, Dieu, puisqu'il aimait Israël, ne l'avait pas laissé tomber. Donc Dieu était toujours là pour son peuple. Et ça c'est l'amour. de toujours être là en attendant. C'est comme j'ai dit la dernière fois, quand Jésus a donné l'exemple ou l'histoire du fils prodigue, voilà comment Dieu est, il guette pour le retour. Et il fait ce qu'il peut pour que le retour s'achève, arrive. Mais il y a quand même notre responsabilité. Il faut qu'on se retourne, qu'on se tourne, qu'on fait demi-tour, qu'on revient vers Dieu. Lui, il fait sa part. Maintenant, c'est à nous de faire notre part. Bon, je ne sais pas si vous avez compté jusqu'ici, mais est-ce que vous savez à peu près combien de fois j'ai employé le mot « toujours » jusque-là pour exprimer l'amour de Dieu? Est-ce que quelqu'un a une idée? C'est pas important. Sept fois, je les ai comptés et je les ai dit exprès, le mot « toujours », pour souligner ce que j'appelle l'amour constant de Dieu. Il est toujours là pour nous aider. Il ne nous laisse pas tomber. L'apôtre Paul, en parlant des hommes de son jour, a écrit à Timothée, « Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. » Ok? Dieu est toujours là. On s'écarte, mais lui, il reste. Ainsi, Dieu prouve son amour par le fait qu'il est fidèle et il ne reste pas les bras croisés. Il fait toujours quelque chose, pas toujours agréable, mais efficace. Peut-être nous n'en réfléchissons pas trop ou peut-être nous ne voulons nous pas en réfléchir. Mais pour ceux qui sont ses enfants, il y a ceci qui a été écrit en Hébreu 12. On va le lire ensemble et nous verrons cela surtout la prochaine fois. Mais on va lire maintenant ce qu'il dit. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur, et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime, et frappe de verge tout fils qu'il agrée. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Puisque nous avons eu des pères selon la chair qui nous corrigeaient et que nous avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon. Mais Dieu corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. Et j'ai souligné dans mes notes deux ou trois phrases au verset 6. Le Seigneur corrige celui qu'il aime. Verset 7, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Verset 10, Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt afin de nous faire participer à sa sainteté. Et puis le verset 11, elle procure un paisible fruit de justice. Vous voyez, amour, justice, sainteté, toujours liés ensemble. Et ça fait partie de, c'est l'essence de Dieu, si vous voulez, de sa sainteté que nous verrons dans un moment. Donc la discipline de Dieu prouve son amour et sa paternité. Ça prouve que nous sommes ses enfants. Ça, c'est très important aussi. Parce qu'il nous aime, il ne va pas nous laisser nous détruire sans intervenir. Ce qui est vrai pour le Père humain qui aime son enfant est vrai pour Dieu. Proverbe 13, verset 24, « Celui qui ménage son bâton a de la haine pour son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. » Et c'est l'homme sage qui a écrit cela, inspiré de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu agit aussi. Quatrièmement, comment pouvons-nous savoir que Dieu nous aime? Bon, le verset classique que nous citons souvent, Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et puisqu'il aime donc, Dieu a offert Jésus pour nous. On a le texte de Paul en Romains 5 que vous avez là, « Dieu prouve son amour » verset 8, « Christ est mort pour nous » toujours verset 8. Mais la chose qu'il faut remarquer dans Jean 3, 16 est la petite expression « quiconque croit ».« Quiconque croit » parce que cela montre l'universalité de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est pour tout le monde. « Quiconque croit ». Et quand Jésus l'a dit, cela s'adressait à un juif, mais il envisionnait aussi les non-juifs comme nous aujourd'hui. Donc Dieu est le créateur de tout le monde et son amour s'étend à tout le monde. Allez, je vais rajouter une petite chose ici. Dieu, donc, il est le créateur de tout le monde et son amour s'étend à tout le monde, c'est ce que je viens de dire. Et de plus, puisqu'il est saint, et je l'ai dit la dernière fois au début, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Dieu s'attend à ce que ceux qui ont choisi de devenir ses enfants remplissent leur responsabilité d'amour envers lui et les uns envers les autres. Notre obligation d'amour, car ce sont des commandements, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, tout ton être, ou tu aimeras ton prochain comme toi-même, notre obligation d'amour implique que nous devons aussi vivre d'une manière sainte envers Dieu et envers nos prochains. C'est comme l'apôtre Paul a défini l'amour agapé en Romains 13 que vous avez devant vous. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Qu'est-ce que cela implique? En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. Et tout autre commandement se résume en cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et ça fait partie de notre sainteté. Si j'aime Dieu, si je veux faire sa volonté, je veux lui obéir quand il me dit « aime ton prochain ». Si j'aime mon prochain comme il faut, je ne vais pas faire du mal à mon prochain. J'agirai avec sainteté envers mon prochain. Et c'est ce que Paul est en train de dire dans ce texte. Donc si nous vivons autrement, c'est-à-dire on n'obéit pas à ces commandements de Dieu, nous avons, comme nous avons lu en Hébreux 12, par son amour et par sa sainteté, Dieu sera obligé d'intervenir par la discipline. Et Jésus l'a dit de cette façon, Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Bon, abordons maintenant spécifiquement notre sujet de la sainteté de Dieu. Je vais énoncer quelques principes dans la première partie avec quelques petits exemples, et puis dans la deuxième partie, nous verrons les exemples de cet amour, l'action de la sainteté de Dieu parmi son peuple. Bon, si je devais définir la sainteté de Dieu en une phrase, je crois que je choisirais celle-ci. La sainteté, c'est d'aimer la justice. Vous avez les trois éléments, amour, justice, sainteté. La sainteté, c'est d'aimer la justice. Dieu aime et il est juste. Il est le seul d'être capable d'aimer parfaitement et d'être parfaitement juste. Le seul d'être capable d'aimer parfaitement, d'être parfaitement juste. Et pour le croyant qui vit par la foi, ce constat doit être réconfortant. Je suis réconforté par le fait que Dieu est parfaitement juste et qu'il agit parfaitement par amour. Mais pour le non-croyant, de constater la justice parfaite de Dieu devrait être effrayant. Et je dirais même que pour le croyant, la sainteté de Dieu devrait évoquer la crainte et le respect en même temps. Il ne doit jamais avoir une complaisance, ou nous ne devons jamais être confortables devant Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez, mais il y a toujours quelque chose qui doit nous effrayer un petit peu quand même en étant dans sa présence. Pourquoi dis-je cela? Regardons quelques passages qui évoquent la sainteté de Dieu et remarquons comment elles sont impressionnantes, c'est cette sainteté. Psaume 89. Qui en effet, dans la nuit, peut se mesurer à l'Éternel? Encore cette question, à qui me comparez-vous, mais d'une autre façon. Qui est comparable à l'Éternel parmi les fils des dieux? Dieu est terrible au grand conseil des saints, redoutable pour tous ceux qui l'environnent. Habacuc 2, verset 20, l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Hébreux 12, 25 et suivant, prenez garde. Ne poussez pas celui qui vous parle, car si ceux qui repoussèrent celui qui sur la terre les avertissait n'ont pas échappé au châtiment, à bien plus forte raison ne pourrons-nous y échapper nous-mêmes si nous nous détournons de celui qui des cieux nous avertit. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Dans ces trois passages, je trouve qu'il y a une chose en commun avec tous les trois passages, c'est que la présence de Dieu tient l'homme en respect. C'est-à-dire, elle inspire un respect mêlé de crainte, car sa présence fait redouter. Sa présence redoutable me fait penser au prophète Ésaïe et à sa vision qu'il a eue dans le temple, selon Ésaïe 6, qu'on va lire ici. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel les armait. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu ». Car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et là, ce qu'on trouve dans ce texte et dans plein d'autres, en la présence de Dieu, on sait d'office qu'il est juste, et qu'il agira avec justice, et qu'il est capable d'agir avec justice, parce qu'il est saint. Et donc, en la présence de Dieu, c'est comme si, sans que personne dise un mot, sans qu'on ait révélé quoi que ce soit, simplement le fait d'être en sa présence révèle tout cela. On se rend compte tout de suite, mais je suis devant une personne qui n'est pas comme les autres, qui est à craindre, parce qu'il est saint, il doit être juste. Puisqu'il est saint, Dieu est aussi majestueux, imposant et impressionnant, et autre ou différent que toute autre chose. Et nous pouvons appeler sa majesté sainte et imposante et redoutable sa gloire. Je ne sais pas, je cherche à définir toujours le mot gloire, la gloire de Dieu. Et c'est difficile, mais je le dis comme ceci, il est tellement saint qu'il rayonne. Et parfois, il fait rayonner celui qui est en sa présence, comme c'était le cas avec Moïse. Moïse est allé vers Dieu pour recevoir les commandements de Dieu, les instructions. Quand il est revenu, il est redescendu de la montagne, son visage rayonnait. Il a dû mettre un voile pour que les gens puissent le regarder. Pourquoi? Parce qu'il avait été dans la présence ou devant la gloire de Dieu. S'il y a un mot qui résume bien comme Dieu, comme redoutable et juste, ce soit le mot sainteté. Il est le saint d'Israël. Et là, on a beaucoup de textes qui disent cela aussi. Mais le mot sainteté, en plus de gloire ou de majesté, comprend aussi deux autres idées que j'aimerais développer un petit peu. La pureté et la séparation. La pureté et la séparation. D'abord, la sainteté a le sens de pureté, mais une pureté absolue. Pour l'homme, cette sainteté peut être une pureté physique, rituelle, et surtout, certainement une pureté morale et spirituelle. Tandis que pour Dieu, la sainteté veut dire qu'il n'y a aucune circonstance dans laquelle il peut être même associé avec ou touché par le péché ou par ce qui est impur. Aucune chose ne peut le toucher qui est impur. Lorsqu'un homme qui n'est pas pur, comme Dieu est pur, ose profaner la sainteté de Dieu, même si ses intentions sont bonnes, il paie de sa vie. Nous avons plusieurs exemples de cette sainteté exigeante et nous les verrons dans la suite. Mais lorsque Dieu est présent, une fois qu'il est présent, toute chose associée avec lui, ou touchée par lui, ou qu'il a déclarée sainte, ne peuvent plus être touchées par l'homme sans que l'homme ait rempli certaines exigences. Autrement, il meurt. Si cette personne n'a pas été consacrée ou rendue sainte par, selon les exigences de Dieu, cette personne, en venant en présence de ces choses déclarées saintes ou touchées par Dieu, cette personne meurt. Ensuite, ça c'est la pureté. Dans la sainteté, l'idée de séparation, d'être mise à part. Et cela se rejoint à la pureté un peu. Mais Dieu est certainement à part ou différent ou distinct de toute autre chose, surtout des choses impures. Il est incomparable, il est intouchable. Et quand je dis intouchable, c'est pas parce qu'il est impur, mais parce qu'il est pur. Quand on pense aux intouchables, on pense en Inde, la caste le plus bas de la société, qu'il ne fallait pas les toucher même. C'est impur. Mais c'est pas ça. Quand on dit de Dieu, il est intouchable parce qu'il est tellement pur. Et l'impureté n'arriverait même pas à le toucher. Le péché de l'homme met même une barrière entre lui et Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas de relation avec l'homme pécheur, mais que c'est impossible. Impossible. Le péché met une barrière infranchissable, même pour Dieu, à cause de sa sainteté, car il ne peut pas se renier, lui, qui est saint. Il est le saint et il lui est impossible de s'associer au péché, tout comme il lui est impossible de mourir, de mentir, par exemple. Ésaïe 59, versets 1 et 2, que vous avez là. Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter. S'il y a quelque chose qui nous sépare de Dieu, ce n'est pas que lui a mis une séparation, c'est que nous avons mis une séparation, que même Dieu ne peut pas traverser. Il ne peut pas toucher ce qui est impur. Si nous sommes impurs, nous sommes les intouchables dans ce sens-là. Afin d'appartenir à Dieu, donc, nous devons être mis à part ou séparés du péché, c'est-à-dire nous devons être rendus saints. Nous sommes dans le monde, mais littéralement, nous devons être coupés du monde, ce qui veut dire être coupé du péché. C'est là le sens de sanctification, d'être coupé, il y a l'idée de coupure dans la sainteté de Dieu. Pour nous, cela est impossible. C'est impossible. Dieu, il ne peut pas traverser jusqu'à nous à cause de notre péché, mais en même temps, nous ne pouvons pas nous purifier jusqu'à traverser jusqu'à lui, parce que c'est impossible. Heureusement, comme nous avons déjà dit, avant la création du monde, Dieu avait mis en œuvre son dessein afin de nous sauver par le sacrifice de son propre Fils, le Messie, promis dans la Genèse. Et ça, c'est l'Évangile, ce mot qui veut dire les bonnes nouvelles, la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Dieu ne reste pas comme ça, il ne peut pas s'approcher comme ça, mais il va faire quelque chose qui nous rend purs pour qu'on puisse s'approcher de lui et lui de nous. Mais le mot dans la Bible qui décrit le mieux cet état d'être mis à part, c'est le mot sanctifié. Sanctifié. Rappelons-nous que Jésus, la nuit de son arrestation, a prié pour ses disciples. Qu'est-ce qu'il a prié? Verset 17, chapitre 17, Jean 15 à 17. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, que moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Nous sommes mis à part ou sanctifiés par la vérité qui se trouve dans la parole. Et qui est la parole? La parole, c'est le Christ. La parole est Dieu. Nous sommes sanctifiés par Dieu. Comment? Par le don de son Fils. Ça, c'est tout ce qui est dit en Jean chapitre 1, le verset 1 à 4, 14. Tout comme nous actuellement, Dieu voulait qu'Israël soit saint. Cela a été dit en Lévitique 20, verset 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. Encore cette idée de séparation. Il nous a séparés des peuples. L'apôtre Pierre a dit la même chose aux chrétiens, en 1 Pierre 1, 14 à 16. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois, dans votre ignorance. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. Trois choses donc sont comprises dans la sainteté de Dieu. La majesté ou la gloire, la pureté et la séparation d'avec quelque chose ou avec quelqu'un pour appartenir à un autre. En ce cas,